Bien bonjour, bon matin tout le monde, Hélène Bédard au micro. Vous êtes à l'émission Les Voix de Service Magazine en ce vendredi 13 avril. J'ai bien dit vendredi 13? Je ne sais pas si vous êtes superstitieux, mais ici, je vais le questionner. Francine, est-ce que vous êtes superstitieuse?
Non, Hélène, pas du tout.
Et toi, Mathieu?
Absolument pas, j'ai le vendredi 13.
D'accord.
Merci de me le rappeler. Maintenant, je suis anxieux.
Ah, bon, on va s'en parler à la pause, si tu veux. En studio, donc avec moi, j'ai ma collaboratrice, fidèle collaboratrice, Francine Forget. Bonjour.
Bonjour, Hélène.
Et Mathieu Tessier à la régie. Alors voilà, ce matin, nous allons vous parler, encore une fois, de sujets passionnants, même si on est vendredi 13. Francine, vous allez nous parler de...
Diverses choses. D'abord, une ville de canards pour tester les véhicules autonomes. Oui, une ville de canards. Une nouvelle génération de commerce aussi. Sûrement la revanche des SR, dans le sens de bac SR. Mais je vais commencer avec une cure de désintox.
Fort bien, fort bien. Avant un vendredi soir, ça risque
oui,
d'être
ben
bien.
Oui, c'est ça, c'est vraiment, ouais. C'est d'actualité.
C'est à propos.
Oui.
On salue Catherine Brunet, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. On la salue bien, elle sera avec nous vendredi prochain. Alors, moi, de mon côté, je vais vous parler de l'aide médicale à mourir qui peut sauver des vies. Et oui, il y a peut-être un petit paradoxe, mais c'est vrai. Ainsi que, vraiment, je suis dans le ton. Encore une fois, une des dernières parties du reportage de Noémie Mercier, Mourir seul. Et vivre l'instant pressant. Je vais vous parler de ça. On vous revient dans un petit moment. Et Francine Forget va débuter l'émission. Allez-y.
Oui, merci Hélène. Il y a souvent des chroniques sur la désintox d'un média social quelconque. Mais je vous avoue que la chronique de Mario Gérard dans la Presse Plus du 8 avril m'a vraiment accrochée. Alors, il l'a intitulé « Ma cure de désintoxication ». C'est arrivé tout bonnement un certain après-midi de janvier, alors que j'étais allongée sur le divan, ma tablette sur les genoux. Une fois de plus, à la recherche d'un moment de détente, je faisais défiler avec mon index de droit les publications de mes amis Facebook. L'opinion politique d'un tel, la 87e photo de bébé d'une telle, la blague pas drôle d'un autre, la blague très drôle d'une autre, la photo du pudding chômeur raté d'un certain autre, tiens, une pub de Barbies qui apparaît. Et toute une ambiance chez Barbies Resto Bar Grill. Oh, 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 Barbies! J'ai soudainement eu le vertige. J'ai tout à coup reçu en plein visage la question, l'unique question, que tout abonné de Facebook se pose un jour ou l'autre. Mais que diable suis-je venu faire ici? Promptement, je me suis dirigée du côté des paramètres de mon compte et j'ai appuyé sur la touche « Désactiver » avec le soulagement d'un drogué qui jette un sachet de coke dans les toilettes ou balance sa boule de hache par la fenêtre de la voiture. Fini le niaisage sur ce réseau qui ne se gêne pas pour vendre aux vampires du marketing nos moindres faits et gestes. Fini les moments de paranoïa ou d'angoisse à tenter de décoder ce qu'un tel a bien voulu dire dans sa publication ambiguë. Fini les déceptions quand, réalisant qu'une telle n'a pas donné signe de vie depuis longtemps, tu comprends qu'elle t'a retiré de sa liste d'amis. Les amis, parlons-en justement. Sur les quelques centaines d'abonnés que j'avais réussi à rassembler au fil du temps, seulement une petite poignée faisait partie de mes intimes. Les autres étaient des connaissances, des gens rencontrés lors d'une soirée, des connaissances retrouvées et des curieux que, dans ma grande naïveté, j'avais acceptés. Bref, j'ai commencé l'année 2018 en annonçant à ma communauté que je fermais mon compte personnel et que j'allais dorénavant m'en remettre à une page professionnelle. J'avoue que j'ai plutôt mal géré cela sur le plan technique. Je suis assez nulle dans ce domaine. Ce qui fait que j'ai finalement tourné le dos complètement à Facebook. Plus de compte, plus de page, plus rien. Vous savez quoi? Le sevrage s'est admirablement bien passé. J'en étais très fière d'ailleurs. Alors que je consacrais plusieurs minutes de ma journée à tenter de trouver des choses rigolotes ou réfléchies à publier, je me suis rendu compte que je pouvais très facilement vivre sans Facebook. J'ai aussi savouré le plaisir d'allouer le temps que je consacrais à cette activité oisive à d'autres occupations. Mes périodes de lecture en sont ressorties gagnantes. Mais voilà, on apprend vite en quittant Facebook qu'on ne peut pas vraiment quitter Facebook. Même en le désactivant, le compte continue d'exister. Ta liste d'amis continue de rester en vie. Bref, chaque fois que je voulais communiquer avec un contact ou une connaissance par Messenger, la messagerie de Facebook, je me reconnectais sur mon compte. Une notification apparaissait alors. « Nous vous souhaitons la bienvenue sur Facebook », semblait me dire fièrement Mark Zuckerberg. Et puis, avec le détachement et l'assurance du désintoxiqué redevenu propre et libre, j'ai annoncé il y a quelques jours mon retour. J'ai eu plusieurs likes. Ça m'a rassuré. Les likes sont aux abonnés de Facebook ce que les biscuits Purina sont aux chiens. Plus on en a, plus on remue la queue. Je suis donc retournée sur Facebook. Le menteur en moi vous dira que le journaliste avait besoin de sentir la température de l'eau. En effet, on trouve parfois des sujets sur les réseaux sociaux. Et les débats qu'on y découvre nous permettent de mieux percevoir l'opinion publique. Mais tout cela est de la fumisterie. Je suis retournée sur Facebook parce que la terre entière est sur Facebook et parce qu'on se sent isolé quand on n'y est pas. Je suis retournée sur Facebook parce que cela nous procure un sentiment de liberté et de démocratie. Je suis retournée sur Facebook, mais j'avoue que le cœur n'y est plus, que le plaisir ne s'y trouve plus. Au fond, ma cure a très bien fonctionné. Je suis de nouveau sur Facebook, mais l'intérêt n'est plus là, j'ai décroché. Il paraît que nous serions 2 milliards d'utilisateurs actifs sur Facebook, sans doute beaucoup moins que cela si on enlève les personnes mortes dont le compte demeure actif et ceux comme moi qui n'arrivent pas à désactiver vraiment. Ces gens y vont pour afficher leur vie ou s'abreuver de celle des autres. Et pendant les nombreuses minutes que l'on consacre à faire cela, on oublie tout simplement de vivre sa propre vie. On s'enfonce de plus en plus dans une sphère virtuelle confortante et sécurisante. On n'entend plus la voix des autres. « Ne m'appelle pas, texte-moi », disent maintenant les gens. Les récents dérapages de Facebook sont hautement bénéfiques et nous obligent à avoir une sérieuse réflexion sur ce phénomène. Pendant que la haute direction de ce géant américain tente de s'expliquer et de s'excuser, sans doute que de nombreux abonnés cherchent la touche de désactivation dans les paramètres du compte. Il y a une douzaine d'années, lorsque Facebook a connu son apogée, il était de bon ton de demander aux autres s'ils étaient membres de ce réseau. Depuis quelques jours, il est de bon ton de dire qu'on n'y est plus. Refuser que nos données fassent l'objet d'une utilisation mercantile ou électorale, peut-être est-ce le nouveau chemin menant vers la démocratie. Peut-être est-ce une nouvelle façon de trouver la liberté. Alors, sur sa cure de désintoxication, Mario Gérard dans la Presse Plus du 8 avril 2018.
Il y a eu Antoine avant moi, il y a eu Dylan avant lui, après moi qui viendra, après moi c'est pas fini. On les a récupérés, oui mais moi on m'aura pas. Je tirerai le premier et je viserai au bon endroit. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins. Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin. J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme qui étaient pas vraiment virils mais qui se prenaient pour des hommes. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai vu pousser des barricades, j'ai vu pleurer mes copains, j'ai entendu les grenades tonner au petit matin. J'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi. J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. Demain, prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot, car la vérité vaincra, la commune refleurira. Mais en attendant, je chante et je te crache à la gueule cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton fauteuil. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas.
Et voilà, Renaud et sa chanson « Société, tu m'auras pas ».
Pour ma part, nous sommes de retour. Merci Mathieu. Nous sommes de retour, Hélène Bédard au micro. Je vais vous entretenir d'un article que j'ai trouvé dans Le Devoir de Isabelle Paré du 29 mars 2018 qui s'intitule « L'aide à mourir sauvera des vies ». Et ça va ainsi. Depuis 2015, une poignée de patients québécois ayant reçu l'aide médicale à mourir ont fait le don de leurs organes après leur mort. Une expérience rare, mais jugée à ce point positive que Transplant Québec s'apprête à faire volte-face et à adopter une politique plus favorable aux dons d'organes consécutifs à cet ultime soin de fin de vie. L'organisme qui supervise le don d'organes au Québec a confirmé au Devoir que quelques cas de dons d'organes se sont déjà faits dans un contexte d'aide à mourir et qu'à la faveur de ces expériences, Transplant Québec entend revoir sa position officielle sur cette délicate question d'ici cet été. On pense qu'il y a un bénéfice pour les patients de donner leurs organes, si cela répond à leurs valeurs. Ce serait discriminatoire de ne pas offrir cette possibilité de don à ceux qui ont choisi l'aide médicale à mourir, explique le Dr Mathieu Weiss, directeur médical chez Transplant Québec. Dans un avis diffusé en 2016, le comité d'éthique de Transplant Québec s'était pourtant montré très réticent à ce que l'enjeu du don d'organes soit abordé auprès des patients réclamant l'aide à mourir. L'organisme jugeait que cette pratique risquait d'être dommageable pour le don d'organes et susceptible d'entacher l'image de ce geste altruiste. Certains pourraient croire que des médecins suggèrent l'aide médicale à mourir à leurs patients pour obtenir des organes. Mettait en garde cet avis, précisant que l'idée du don ne devrait jamais être évoquée par les médecins dans le processus entourant l'aide à mourir. L'idée d'un don n'était éthiquement acceptable que si le patient en faisant lui-même la demande. Si la personne est assez compétente pour consentir à l'aide à mourir, elle est aussi assez éclairée pour donner ses organes, croit maintenant le Dr Weiss. Compte tenu de l'importance accordée à l'autonomie du patient, ces derniers doivent être pleinement informés de tous les enjeux soulevés, entourant leur décès, arrive-t-il. Une nouvelle donne arrive. Une chose est claire, insiste Dr Weiss, Transplant Québec n'interviendra jamais dans le processus de décision de l'aide à mourir pour ne pas donner l'impression qu'il y a eu pression pour accroître le nombre de donneurs potentiels. Nous n'accepterons jamais de dons si nous avons le moindre indice qu'il y a eu coercition dans la décision, insiste le porte-parole. Selon Transplant Québec, seul le médecin traitant du patient en fin de vie sera habilité à aborder avec ce dernier la question du don d'organes. Ce médecin devrait avoir aussi clairement informé son patient des conditions spécifiques engendrées par son choix de donner ses organes, puisque les donneurs se doivent de subir certains tests médicaux et accepter, évidemment, de décéder à l'hôpital. Car, comme dans tous les autres cas de don, le transfert du donneur vers la salle d'opération doit se faire rapidement pour assurer la préservation des organes. Les proches disposeront donc de peu de temps après pour être auprès du défunt, après le trépas. Cet aspect du deuil doit être clairement expliqué. Pour l'aide à mourir, ce sont des médicaments utilisés qui provoquent la mort. Donc, nous avons peu de temps pour prélever les organes. Les patients doivent être à proximité du bloc opératoire et sa famille informée à l'avance des procédures. Malgré tout, soutient le porte-parole de Transplant Québec, des personnes qui voulaient à tout prix effectuer un don ont accepté les circonstances particulières que ce choix impliquait. Pour concilier le don d'organes à l'aide à mourir, il reste cependant beaucoup de sensibilisation à faire auprès des patients et des médecins eux-mêmes. Si les malades atteints de cancer ne peuvent espérer se qualifier comme donneurs, ceux atteints d'une maladie dégénérative pourraient répondre aux exigences requises pour faire don de certains organes. En 2015, la Commission d'éthique en sciences et technologies du Québec s'est montrée favorable à la conciliation des demandes d'aide à mourir avec celle du don d'organes à la condition qu'un soutien particulier soit offert aux familles et aux soignants. C'est un dossier à suivre.
J'étais fatigué d'être celle que tu ne voyais pas, que tu ne voyais pas. J'ai porté de la dentelle sous ma veste à pois. Si tu avais vu laquelle, tu comprendrais pourquoi. Tu comprendrais pourquoi. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Tu partirais d'avec elle pour venir avec moi, pour venir avec moi. Je me suis mise toute belle et j'ai sauté tout bas. Qu'à la porte l'on m'appelle et que tu sois sur le pas, que tu sois sur le pas. Et que je noue les mains pleines d'un bouquet de lilas. Tu me dis que tu m'aimes ou quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Dans mon corps de jeune fille.
Trois accords dans mon corps.
Nous sommes de retour et Francine va nous amuser avec son prochain texte.
Je sais que vous l'attendez, Hélène. Une ville de canards pour tester les véhicules autonomes. Les véhicules autonomes ont mauvaise presse depuis qu'une voiture d'Uber roulant en mode automatique a tué une piétonne en Arizona. Dans un laboratoire de l'Université de Montréal, des chercheurs et des étudiants testent ce type de véhicule dans un environnement où les conséquences sont beaucoup moins tragiques. Une ville peuplée de petits canards en plastique. Un texte de Philippe Mercure dans la Presse Plus du 8 avril 2018. Il y a un lac avec des voiliers, quelques maisons, des habitants qui se prélassent sur les pelouses. Bienvenue à Duckytown, une ville où les petits résidents jaunes se font transporter dans des voitures sans conducteur. La plateforme sert à éduquer et à faire des recherches sur les véhicules autonomes. Et après l'accident qui a coûté la vie à une piétonne en Arizona en mars dernier, on saisit toute la pertinence d'un tel banc d'essai. Je n'aime pas quand il y a une collusion entre un canard et un véhicule, mais au moins on n'a pas tous les médias qui débarquent ici, dit Liam Paul, professeur adjoint au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. À Ducky Town, les canards ne se jettent pas d'eux-mêmes devant les véhicules. On peut les y mettre nous-mêmes et tester les déviations des robots, précise le chercheur. Et je travaille sur un canard avec des pattes qui pourrait bouger lui-même. C'est pendant qu'il était chercheur postdoctoral au MIT que le Montréalais Liam Paul a conçu Ducky Town. L'idée, tester certaines propriétés des véhicules autonomes à très bas coût. Les robots de Ducky Town coûtent à peine $150 et roulent sur des routes tracées sur de simples tapis de mousse. Tout le code informatique est disponible gratuitement, dit aussi Liam Paul. On veut que les autres universités et même les gens indépendants puissent implanter eux-mêmes la plateforme. Mais Ducky Town n'est pas un jeu pour enfants. À l'Université de Montréal, des chercheurs en intelligence artificielle apprennent aux machines à réagir à toutes sortes de situations, puis testent leur comportement sur le terrain. Les scientifiques étudient notamment les interactions entre plusieurs véhicules autonomes et optimisent les déplacements des voitures lorsque celles-ci servent de taxi, devant transporter le plus de clients possible, le plus rapidement possible, et que des imprévus surviennent. Si un concept n'est pas possible à implanter dans un scénario aussi simple que celui-là, on sait tout de suite que ça ne fonctionnera pas dans le vrai monde, dit M. Paul. Et pourquoi des canards en plastique? Je ne sais pas s'il existe un symbole qui entraîne autant de réactions positives, dit-il. Ça permet d'enlever le côté épeurant de la robotique et ça la rend amusante. Liam Paul l'admet. Il est encore sous le choc de l'accident survenu en Arizona impliquant un taxi Uber en mode autonome. La vidéo dévoilée semble montrer que le véhicule autonome n'a même pas tenté de freiner lorsqu'une piétonne, vélo à la main, a traversé la route. Dans le domaine des voitures autonomes, tout le monde est vraiment surpris par ce qui est arrivé, dit M. Paul. Selon le spécialiste, le système LIDAR du véhicule, qui envoie des rayons laser à la ronde et en capte les réflexions, aurait dû détecter la piétonne et réagir. Cette situation est vraiment facile pour un véhicule autonome, dit-il. Impossible de savoir exactement ce qui est arrivé. Mais Liam Paul souligne l'importance pour une voiture autonome de posséder plusieurs systèmes qui font la même chose, ce qu'on appelle la redondance, ou, au minimum, de connaître l'état de fonctionnement de tous ces systèmes et d'envoyer une alerte en cas de pépin. Même si les voitures autonomes roulent déjà à divers endroits, Liam Paul estime qu'il reste des défis à surmonter. L'un d'eux est qu'il faudra accumuler beaucoup de données afin de savoir à quel point elles sont sécuritaires. Et actuellement, ce sont les entreprises comme Google, Tesla et Uber qui accumulent ces données. On laisse les entreprises nous convaincre que leurs voitures sont sécuritaires. C'est comme le renard qui garde le poulailler, lance le spécialiste. Selon lui, il faut aussi oublier l'idée que les voitures autonomes se comporteront comme celles conduites par des humains. Il y a toute une question de perception publique à changer, croit M. Paul. Quand je vois un train qui s'approche, je le sais qu'il ne sera pas capable de s'arrêter. Alors je ne vais pas sur la voie ferrée. Je connais le comportement du train. Je pense qu'il va falloir commencer à traiter le véhicule autonome comme quelque chose de distinct. Il faudra s'attendre à ce qu'il réagisse de façon différente d'une voiture conduite par un humain. C'était Une ville de canards pour tester les véhicules, publié dans la Presse Plus du 8 avril 2018.
Oui.
Très intéressant, votre article, Francine. Très intéressant. Amusant, mais aussi très intéressant. Triste dans les circonstances dans lesquelles ils ont établi le programme. Mais...
Oh, c'est comme c'était commencé avant.
Aussi.
Oui.
Ça a juste bonifié leurs études. Moi, je vais vous parler d'un texte. En fait, c'est plutôt l'histoire de quelqu'un. C'est un monsieur ici, monsieur Adrien Labbé, qui a 79 ans. Et il est encore dans le même garage depuis 61 ans. Je vais vous en parler un peu. Il aime tellement son travail, ce monsieur, qu'à 79 ans, il songe à peine à sa retraite. Il va falloir que j'arrête, mais on ne sait pas quand. C'est le bon Dieu qui va décider, lance-t-il, quand on lui demande s'il se sent prêt à se retirer. Ses collègues chez Drolet Ressort le savent infatigable. Une ancienne fiche d'emploi retrouvée récemment et datant de 1982, démontre que le septuagénaire a été embauché, attention, en 1957, et il travaille toujours. Il a reçu un hommage bien senti des copropriétaires de Drolet Ressort, qui voulaient souligner ses 61 ans avec eux. Ils ont été même surpris. Ils qualifient ça d'exceptionnel parce qu'ils ne croyaient pas tant qu'ils n'ont pas réussi à trouver la fiche d'embauche. M. Labbé est le plus ancien, mais personne ne savait vraiment quand il était entré. C'est en retournant dans nos vieux papiers qu'on a vu ça. On a fait le saut, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, relate Simon Mercier, le directeur du développement, et il se spécialise, ce monsieur extraordinaire, dans la mécanique et la suspension des véhicules lourds. C'est pas rien. Même le principal intéressé semble surpris. Mais ça n'a pas de sens, ça passe tellement vite. L'homme a le regard vif et affiche un large sourire, visiblement fier, de cet accomplissement. Depuis un an, il ne travaille plus qu'une journée par semaine. Il assiste le directeur des pièces et occupe des tâches moins rigoureuses physiquement. Malgré tout, il sait encore se rendre indispensable. La technologie a changé, mais ses connaissances, on en a encore besoin, mentionne le propriétaire. Il est respecté de tous les autres mécaniciens par sa vaillance, ses connaissances et son ancienneté. Quand il n'est pas au garage, décidément, il s'occupe de deux immeubles à logement qui lui appartiennent. Moi, rester à ne rien faire, je ne suis pas capable. Je virerais fou. Et il philosophe ainsi, ce n'est pas le travail qui fait mourir. Il entame maintenant sa 62e année de service. C'est un texte de Dominique Lelièvre. Alors voilà, restez avec nous pour la suite de l'émission Les Voix de service.
M'appelle dans la nuit, et quand revient le jour, je déboule dans Paris. Pierre qui roule de la cigale à la fourmi, le cœur sur le tapis, cliché contre jour, de building et de taxi, un réveil dans un hôtel nommé Marcel, un bout de ciel dans mon Chelsea, mon amour, je marche chez toi, tu cours, je dors et toi, tu rêves, et on s'aime, chacun son tour. Chelsea, mon amour, reste
reste à l'ombre des platanes. Jusqu'à mon retour, sous le ciel de Manhattan, sous les escaliers de fer, pour y refaire notre histoire à l'envers. Chelsea, mon amour, je marche et toi tu cours, je dors.
Chelsea, à mon amour.
Merci Mathieu. Nous sommes de retour, Hélène Bédard au micro. Francine Forger va poursuivre avec un article, encore une fois, fort intéressant.
C'est un éditorial de Marie Lambert-Chan, qui est rédactrice en chef de Québec Science. Retenez bien cela, elle est rédactrice en chef de Québec Science. La revanche des SR, comme Bac SR, comme je disais tantôt, les appels se multiplient pour revaloriser les sciences humaines. Seront-ils entendus? Bienvenue dans le programme de sciences humaines qu'on appelle aussi sciences molles, car on les pense moins rigoureuses que les sciences dites dures, comme les maths et la physique. Si vous poursuivez dans cette branche, sachez que dans vos parties de famille, on vous questionnera sans arrêt sur l'utilité de votre formation et vos perspectives d'emploi. C'est dans ces termes cyniques qu'un professeur de sociologie nous avait accueillis jadis, mes collègues de classe et moi-même, lors de notre premier cours de cégep. En moins d'une minute, il venait de résumer les préjugés qui minent les sciences humaines depuis des décennies. Alors que j'avais choisi ce cheminement, celle qui est devenue rédactrice en chef de Québec Science, sans autre but que celui d'apprendre, sans égard à un choix de carrière, une telle entrée en matière avait de quoi me déprimer. Tous les diplômés SR ont déjà entendu une version de ce discours qui s'est durcie au cours des dernières années. Dans un monde qui carbure aux données, aux algorithmes et aux lignes de code, l'étude de la condition humaine peut paraître futile. Pourtant, ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Attribué à Einstein, ce bel aphorisme est en quelque sorte le cœur d'une flopée d'essais publiés récemment par des auteurs provenant de Silicon Valley, de Wall Street et d'universités américaines qui, chacun à leur manière, tentent de redorer le blason des sciences humaines. Selon eux, les sociétés ont commis une erreur en priorisant les STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, perçues comme des vecteurs naturels d'innovation et de retombées économiques, au détriment des sciences humaines, dont on a oublié la valeur intrinsèque. Pour Scott Hartley, auteur du livre « The Fuzzy and the Ticky », l'étude des humanités est une aventure intellectuelle au cours de laquelle les étudiants développent une curiosité ainsi que des habiletés qui leur serviront toute leur vie. Ces compétences fondamentales, pensée critique, compréhension de lecture, analyse logique, argumentation, communication claire et persuasive, préparent également très bien les étudiants à la vie professionnelle, écrit-il. Ce conseiller en capital de risque note au passage que plusieurs leaders des technos ont étudié les humanités. Susan Wojcicki de YouTube a une formation en histoire et en littérature. Brian Chesky d'Airbnb a étudié les beaux-arts. Stuart Butterfield de Slack, une plateforme collaborative, est diplômé en philosophie. Jack Ma d'Alibaba. Alibaba, c'est en fait un site Internet qui offre plusieurs services, marché public, vente au détail, paiement, etc., possède une licence d'anglais. C'est ce qu'il laisse dire à Joseph Aoun, président de la Northeastern University à Boston et auteur du livre « Robot Proof », que seules les sciences humaines procureront un avantage compétitif aux futurs travailleurs qui seront confrontés aux affres de la robotisation et au dérapage potentiel de l'intelligence artificielle. Il propose même de créer une nouvelle formation, les Humanix, qui marierait les humanités et les STEM, sciences, technologies, etc. Ces auteurs ont raison. Les sciences molles et les sciences dures ne sont pas mutuellement exclusives. Elles sont interdépendantes. Il est temps de mettre fin à cette fausse dichotomie qui freine la recherche de solutions dans notre monde de plus en plus complexe et polarisé. Mais cet appel sera-t-il entendu? Tous les espoirs sont permis, car même le patron d'Apple, Tim Cook, l'a compris, lui qui déclarait ceci aux nouveaux diplômés du MIT en 2017. Si la science est une recherche à tâtons dans le noir, alors les sciences humaines sont une bougie qui révèle nos traces et les dangers qui nous attendent. Alors l'éditorialiste et rédactrice en chef, Marie Lambert-Chan, s'exprimait sur le sujet dans Québec Science de mars 2018.
Délicieux! Un texte délicieux, Francine. Merci beaucoup. Et moi, je vous amène dans un texte, une chronique que j'ai trouvée dans le journal La Tribune de Sherbrooke. Un texte écrit par Renaud Séchant, paru le 16 mars de cette année. Et ça s'intitule « Vivre l'instant pressant ». Ça commence ainsi. J'ai été un enfant, je ne le suis plus. Voilà mon drame. J'ai des échardes dans le cœur, comme tout le monde, des souvenirs qui restent poignés de travers dans l'âme, des remords qui collent à la peau. Papa, pas brusque, ces trois mots lancés par ma fille, alors qu'elle n'avait que 2 ans, ne me quitteront plus jamais. J'étais pressée, je suis souvent pressée, et stressée aussi. On avait du retard, en plus, et quand on est stressé et pressé, on est souvent en retard. Éliane, elle contemplait la valse des flocons, encore de la maudite neige à pelleter, et tardait à monter dans la voiture. Fatiguée de répéter, je l'ai agrippée par la taille et je l'ai installée dans son siège. Un peu vite, peut-être brusquement. Pas de quoi faire un signalement à la DPJ, mais pas de quoi me remettre le prix du papa de l'année non plus. Alors, papa, pas brusque, ma fillette m'a servi une importante leçon ce jour-là. Mon fils me stresse aussi, parfois. Grande gueule comme son père, il fait généreusement connaître ses frustrations. Quand il a faim, ses cris vrillent dans les oreilles et déchiquettent les tympans. J'exagère à peine. Quand sa couche est pleine, on a droit au rugissement. Il est douillet de l'arrière-train, ce petit. En mode panique, je cours avec le bébé dans une main et la couche dans l'autre. Guillaume devient rouge puis mauve. Il tremble de partout et son visage se tord en une série de rictus annonciateurs de représailles terribles si on ne le nettoie pas au plus vite. Chaque fois, le cœur battant, je m'exécute à toute vitesse, comme si ma vie en dépendait. Et hop, c'est fini. D'un seul coup, les hurlements cessent. Il reprend ses couleurs et affiche un large sourire. Moi aussi. Les enfants peuvent passer d'une intensité à l'autre en un rien de temps. Ils en profitent de la plasticité de l'humeur que l'on perd trop souvent avec l'âge. Ils versent des larmes, éclatent de rire dans la minute, sans craindre un diagnostic de bipolarité. Autour de moi, je vois des adultes traîner des peines, des regrets, des rancunes pendant des semaines, des mois, des années. Je porte moi-même mon lot de ressentiments qui minent mon humeur et m'empêche parfois de vivre l'instant présent. Quand on ajoute les contraintes du quotidien et les stress inhérents au poids des responsabilités, l'état de pleine conscience prend le bord assez vite. Entre les regrets d'hier et les appréhensions du lendemain, on peine à être présent, attentif à soi et aux autres. De manière plus rustre et figurée, un ami me disait, avec un pied dans le passé, un autre dans le futur, je suis bien placé pour chier sur mon présent. L'image a le mérite d'être claire et d'établir un lien subtil avec les couches de mon héritier. Je n'ai aucun livre de croissance personnelle à vous vendre, ni de conseils miracles à vous prodiguer. Le yoga peut être efficace, la méditation, la nature, la lecture, le tantrisme aussi. J'en connais même qui se connectent à l'instant présent en visitant des cimetières au crépuscule. Bon, chacun doit trouver ses propres moyens pour sortir du maelstrom, s'extirper du bombardement de courriels et de textos qui nous assaillent, apprendre à dire non, à mettre ses urgences en attente et surtout respirer. Mon truc à moi, c'est de consulter des experts, mes enfants. Ils me ramènent à l'essentiel. Avec ma fille et mon fils, on a profité de la semaine de relâche pour glisser, faire un bonhomme de neige, visiter les grands-parents, me maquiller en reine des neiges et peinturlurer une toile en famille. Évidemment, j'ai pris du retard sur tous mes projets en cours, dont cette chronique. Je n'écrirai pas 800 mots cette semaine. 657, ça me paraît suffisant. Ce sera moins long à lire aussi. Vous aurez donc plus de temps pour profiter de votre journée et discerner l'important de l'urgent. Je vous rappelle le dernier texte que j'ai lu, ça s'intitule « Vivre l'instant pressant » et c'est de Renaud Séchane de La Tribune à Sherbrooke. Pour le moment, nous allons poursuivre avec les excellents choix de Francine.
Bien, merci Hélène. Alors là, je vais vous parler de la voie du futur, mais un futur très, 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 très proche, pour ne pas dire présent, du commerce de détail. À peine a-t-on commencé à magasiner sur notre téléphone cellulaire qu'il faut déjà se préparer psychologiquement à utiliser une nouvelle technologie dont la vitesse d'adoption sera exponentielle, prévoient les experts, le magasinage vocal. Parce que c'est rapide et que personne n'aime taper des mots dans un moteur de recherche. Marie-Ève Fournier nous en parle dans la presse plus du 2 avril 2018. La voix sera la grande force perturbatrice de la vente au détail de la prochaine décennie, a déclaré Michael Haswell, directeur du développement commercial mondial chez Google, lors d'une conférence sur les achats vocaux au récent congrès Shop Talk à Las Vegas. Selon lui, la voix est prête pour le vrai magasinage. Pour le moment, les commandes vocales servent essentiellement à recommander des biens, à se réapprovisionner en savon à lessive et en ketchup. Mais bientôt, on pourra demander à son assistant vocal « Où puis-je acheter ceci? » Il pourra nous aider à trouver les vêtements parfaits pour une occasion en fonction de la date, la température, de notre couleur préférée et du style d'habillement convenable pour l'événement en question. La voix, c'est une nouvelle génération de commerce, a renchéri Larry Bonn, directeur général de General Catalyst, un fonds possédant des actions de Snapchat, Airbnb et Kayak, entre autres. Ce n'est surtout pas le président et fondateur de Voices qui va les contredire. En entrevue avec la presse, Peter Cahill a confié être absolument en accord avec la prédiction du représentant de Google avec qui il partageait la scène. Mais il y a un mais. Même si son entreprise travaille depuis des années sur une technologie de reconnaissance vocale à l'intention des détaillants. L'entrepreneur dublinois de 35 ans ne croit pas que les assistants vocaux de Google et d'Amazon sont les appareils parfaits pour faire des emplettes, à l'exception de l'épicerie et des articles ménagers. Ces appareils ont des limites, fait valoir Peter Cahill. La première, c'est qu'ils n'ont pas d'écran. La plupart des gens n'achèteront pas quelque chose qu'ils ne voient pas. Ensuite, ces appareils ne sont pas portatifs et ils sont faits par Google et Amazon. Donc, avec celui de Google, tu te prives de toute l'offre d'Amazon. Puisque tout le monde a déjà un téléphone dans les mains, c'est là que se trouve l'avenir du commerce vocal, croit-il plutôt. Voilà pourquoi son équipe de 33 scientifiques, linguistes et ingénieurs, répartis entre Dublin et Boston, travaille depuis 4 ans sur une technologie de reconnaissance vocale qui peut être intégrée au site Web et aux applications des détaillants et qui utilise les filtres déjà en place. Voisis est l'entreprise la plus avancée au monde en ce qui a trait à la voix au service de la vente au détail, affirme Peter Cahill, précisant que quelques détaillants américains font actuellement des tests à l'interne. Pour faire une recherche, le consommateur n'a qu'à appuyer sur l'icône en forme de petit micro. Il peut alors demander à voir toutes les robes noires de taille 8 à moins de 200 $. La voix, c'est beaucoup plus vite, ça prend 2 secondes plutôt que 10 si on tape les mots. Tout le monde va préférer l'option rapide, ajoute M. Cahill. De plus, la technologie, contrairement à celle d'Amazon et de Google, permet aux détaillants d'attirer les consommateurs sur leur site, ce qui est important pour l'interaction, croit-il. Ceux-ci paient quelques centièmes de cents à chaque utilisation. Le tarif est très bas pour que les détaillants encouragent les recherches avec le petit micro. Peter Cahill rappelle que les internautes ne sont pas patients. S'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchent après 3 secondes, ils vont voir ailleurs, d'où l'importance pour les détaillants d'avoir un site efficace et intuitif. Pas moins de 70% de l'achalandage provient des téléphones, mais les ventes ne sont pas au rendez-vous. C'est la preuve que l'expérience est mauvaise. Personne ne pouvait prévoir à quel point le mobile prendrait rapidement de l'ampleur dans la vente au détail. Ce sera encore plus vite avec la voix, a souligné Larry Bond du fonds General Catalyst, au public dans la salle. On a enfin atteint un point où la technologie s'adapte au monde des humains et non à l'inverse, a conclu le représentant de Google, Michael Aswell. Alors, on parlait donc de cette nouvelle façon de faire des achats par la voix du futur qui est présente, je dirais. C'est un texte de Mme Marie-Ève Fournier dans la Presse Plus du 2 avril.
Merci beaucoup, Francine, encore une fois. Un texte bien présent, même si on parle du futur. C'est bien, c'est à nos portes.
Oui, ça. Oui, ça nous prépare, ça nous prépare. Oui. Les petits micros, retenez cela.
Moi, pour ma part, je vais vous poursuivre une lecture que j'ai débutée il y a cela 2 semaines. C'est dans le cadre du grand reportage que Noémie Mercier a fait dans la revue Actualité. Et ça s'intitule « Mourir seul ». Ce volet s'intitule par lui-même « Chacun pour soi ». La vie en solitaire est devenue la norme au pays. Les personnes habitant seules représentent désormais 28% des ménages au Canada. Selon le dernier recensement, c'est au Québec que la proportion est la plus élevée, c'est-à-dire elle atteint 33%. Le vieillissement de la population ne fera qu'accentuer la tendance puisque les personnes âgées sont plus susceptibles que les autres groupes d'âge de vivre en solo. L'un des grands défis de notre époque sera de leur permettre de maintenir leur indépendance tout en neutralisant le risque qu'elles meurent précocement ou sans secours. Car la solitude en soi peut être mortelle. Dans une méta-analyse parue en 2015 dans la revue Perspective and Psychological Science, les chercheurs calculent que le fait de vivre seul augmente le risque de mourir de 32%. Des initiatives voient le jour pour éviter une mort solitaire aux personnes âgées ou vulnérables. En s'abonnant au programme PAIR, P-A-I-R, les gens reçoivent un appel automatisé chaque jour à l'heure de leur choix. Après 3 appels sans réponse, une alerte se déclenche et un répondant, soit un proche, un voisin ou un policier, est envoyé à domicile pour s'assurer que la personne est hors de danger. Géré localement par les corps policiers, des municipalités et des organismes communautaires, le programme est offert gratuitement dans 70% des municipalités régionales de comté, les MRC, du Québec, et un comité travaille à l'étendre à l'ensemble de la province. Le service actuellement a permis de secourir, depuis l'année 2000, presque 500 personnes qui avaient subi une chute ou un malaise et qu'elles se trouvaient seules à la maison et surtout incapables d'appeler à l'aide. Ça remplace le réseau social. résume Paul Thier, policier responsable de l'agence Père à Magog. Et même le jour, il en ajoute une couche, le jour de l'anniversaire de l'abonné, le système lui fait entendre, lorsqu'il décoche le téléphone, des vœux de fête préenregistrés, chantés par Michel Louvain. Dans le même esprit, l'Office municipal d'habitation de Montréal, voyant que ses occupants sont de plus en plus vieux et isolés, a mis en place le programme qui s'appelle « Un vigilant » qui veille sur vous. Chaque soir, avant de se coucher, les locataires accrochent une affichette à leur poignée de porte et la retirent le matin en se levant. Lors de leur ronde quotidienne, les résidents bénévoles repèrent ceux qui n'ont pas enlevé leur affiche et contactent, si nécessaire, un répondant ou les services d'urgence. Actif dans la moitié des 138 immeubles pour aînés, ces vigilants auraient sauvé quelques dizaines de vies depuis une décennie, évalue le responsable du programme. On a parfois de la difficulté à convaincre les gens de s'inscrire parce qu'il y a le syndrome qui s'appelle « je me mêle de mes affaires ». On ne veut pas exposer sa vie privée, se faire déranger, on est orgueilleux, on dit qu'on n'en a pas besoin. On a beaucoup de travail de mobilisation à faire. Le climat qu'il décrit n'est pas propre seulement au HLM de Montréal. Ce repli sur soi, cette hésitation à cogner à la porte du voisin, à lui ouvrir le nôtre, ce sont des réflexes plus ancrés qu'on ne le pense dans la société québécoise. Ces gens sont retranchés au sein de leur clan familial et moins portés à cultiver leur amitié, à fréquenter leurs voisins, à faire confiance aux étrangers. Par exemple, c'est au Québec que les gens sont les moins nombreux à se rendre service régulièrement entre voisins. C'est également ici qu'on mesure les niveaux de confiance les plus faibles envers les habitants du voisinage et les inconnus. Et puis presque les deux tiers des Québécois croient qu'on n'est jamais trop prudent dans nos relations avec les gens. Un taux nettement plus élevé que n'importe où ailleurs au pays. Pour éviter qu'un si grand nombre de Québécois meurent dans l'abandon, ça prendra bien plus que des appels automatisés, des affichettes accrochées aux portes. Il faudra réparer ces brèches dans le tissu social. C'est justement en songeant aux vieillards qui s'éteignent sans que personne s'en aperçoive que Nadine Maltais a eu l'idée de Voisins solidaires, une initiative mise sur pied avec ses collègues du réseau québécois de Villes et Villages en santé. Le but n'est rien de moins que de changer la culture, de réapprendre aux Québécois à veiller les uns sur les autres dans leur quartier afin que des personnes âgées puissent vieillir chez elles en sécurité. Ça peut être aussi facile que de vérifier si la vieille dame d'à côté a ouvert ses rideaux le matin. On a besoin de nouvelles solutions sociales pour relever le défi du vieillissement, dit-elle. Le voisinage en est une. Actuellement, on est plutôt dans une norme de côtoiement respectueux et d'ignorance mutuelle. Les gens se disent « je paie des taxes, il y a plein de programmes sociaux, alors ça ne me regarde pas de m'occuper des gens autour qui ne sont pas des proches. » Pourtant, les Québécois, dès qu'il arrive une catastrophe, sont prompts à s'occuper des autres. Mais il faut quelque chose de grave, on dirait. Nous, on souhaite installer cette solidarité en continu au quotidien. Une campagne a été lancée en novembre à l'échelle du Québec pour éduquer le grand public aux vertus du bon voisinage. Prochaine étape, encourager les villes et les organismes communautaires à prendre des mesures pour stimuler la convivialité sur leur territoire. Un texte, un magnifique texte de Bien informé de Noémie Mercier de l'actualité dans le cadre de sa grande enquête « Mourir seul ».
Combien de temps?
Francine va poursuivre avec une brève nouvelle.
Alors, 10 découvertes de l'année dont on a fait état dans le Québec Science, toujours de mars 2018. Des chercheuses, en fait, ont fait reculer de 10 000 ans la date de colonisation de l'Amérique par les premiers humains. Un outil de la taille d'un crayon repère et élimine en temps réel des cellules cancéreuses pendant une intervention chirurgicale. Une autre découverte des scientifiques qui démontre que la microbiote des feuilles est très importante dans l'écosystème forestier. Deux chercheurs aussi qui ont découvert que le décrochage scolaire est lié bien souvent à un événement personnel, stressant vécu par le jeune. et bien d'autres choses. En fait, il y en a qui portent sur un marteau piqueur, par exemple, médical, capable de déboucher les artères. On pourra y revenir, continuer cette belle liste parce que c'est étonnant et surtout très utile.
Oui, très utile. Très curieuse ça, d'en connaître un peu plus. Écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute et merci beaucoup, Francine Forget, excellente collaboratrice.
Merci Hélène, ça fait un plaisir, comme à chaque vendredi.
Merci Mathieu, tes choix musicaux. Ah, les adore. Et voilà, alors on dit merci et à Catherine qui peut-être nous écoute. Et on se retrouve donc à la semaine prochaine. Alors portez-vous bien d'ici là et au plaisir.